Avant de commencer l'émission, petit message pour vous dire que nous serons en live le vendredi 12 avril à 19h30 à Paris, au Club de l'Étoile, pour vous diffuser Les Ailes de l'Enfer de Simon West, suivi d'un enregistrement d'un podcast en live. Informations et réservations dans la description de l'épisode. Et merci encore au Club de l'Étoile de nous accueillir pour ce premier live. Tous dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Le Monsterverse, ce projet d'univers partagé, transmédia entre films, romans, séries, mis en place à partir de 2014 par la Warner, Legendary Pictures et Lato, a engrangé pas moins de 2 milliards de dollars au box-office avec 4 films, une série sur Apple TV, Monarch, et une série d'animation sur Netflix, Skull Island, dont le premier film, le mémorable Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014, film de 2h30 où nous avions le droit à 5 minutes d'image de Godzilla, chef-d'œuvre d'ennui apocalyptique avec des acteurs qui n'y croyaient pas non plus. À l'occasion de la sortie de Godzilla Cross Kong dans Le Nouvel Empire, en salle, cinquième film de cet univers partagé, retour sur le dernier film qui exploite avec brio la mythologie du plus grand des kaijus et du monstre géant préféré d'Hollywood depuis un siècle. Je suis Luc Lolinec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Godzilla vs Kong de Adam Wingard mérite la cheatlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin.
Ton intro qui mérite la cheatlist, c'est pas possible.
Alors moi je dirais, je crois que certaines personnes appuierait cet avis.
Oui,
mais il y en a une qui rigole, mais je crois que c'est elle. Hein. Mais je suis pas sûr, hein, mais bon, bref. Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu.
Bonsoir. Non, moi, il y a un élément sur lequel je suis pas d'accord, mais on y reviendra tout à l'heure.
On va tous se battre.
La présence du monstre, on s'en fout, le temps de présence, je m'en fous un peu.
Ah, ok, d'accord,
plus,
ça marche.
C'est chiant à côté, quoi.
Vander Vesper de la team Cheatlist avec nous, salut Vesper.
Bonsoir, et moi je suis d'accord avec cette intro.
Okay, donc on est deux dans notre équipe, d'accord.
Super. Et on a invité avec nous Fabien Moreau, grand spécialiste des kaiju et auteur de Ishiro Honda, Humanisme, Monstre et Kaiju et Envahisseur et Apocalypse, édité chez Aardvark Edition. Salut Fabien, et merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah, avec plaisir, Luc. Je suis content d'être avec vous, même si effectivement je peux pas valider l'intro non plus.
Évidemment que non.
Alors je vais commencer avec cette question, votre relation justement avec cet univers partagé de monstres, et je vais commencer avec Fabien justement. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a mis en place la Warner Toho et Legendary Pictures?
J'étais très content à l'époque où ça devait être juste une franchise Godzilla, c'est-à-dire potentiellement juste une trilogie, donc j'étais heureux. J'étais très heureux le temps de l'époque de Pacific Rim et du Godzilla de Gareth Edwards. Depuis, je suis un petit peu moins heureux au fur et à mesure des films, voilà.
Ça se casse la gueule pour Fabien. Marvin, de ton côté ?
On en reparlera pendant qu'on parlera du coup de Godzilla vs Kong, parce que je pense que c'est l'emblème de ça, mais c'est marrant. C'est un univers qui a évolué, je dirais. Voilà, disons que la promesse a tenu un film, et
oh,
après, on a décidé de faire autre chose. Voilà, donc, bon, pourquoi pas, c'est une espèce d'alternative à quelque chose d'autre, finalement. Tu vois, les choses se mettent en place, on verra. Après, la plupart des choses, les films sont nuls. La plupart des
oui,
films,
oui, on peut se dire. Vesper, de ton côté.
Oui, bah, comme je sous-entendais de manière discrète tout à l'heure, j'ai été un peu déçu par le Godzilla de Gareth Edwards. Et Kong Skull Island, j'ai aimé sans plus, donc du coup, j'ai un peu abandonné. Les autres films, et pourtant je sais que je suis cliente d'habitude de ce genre voilà, de conneries, voilà, j'avais un peu abandonné, donc là c'était un peu l'occasion de m'y remettre avec le film du jour.
Est-ce que c'était avec aplomb? Avec aplomb, envie, détermination? Est-ce que t'as été voilà,
tout. Non mais je on va dire que je me suis voilà, portée volontaire pour ce podcast en me disant que j'allais vraiment passer un mauvais moment, et ce n'était pas le cas même.
Tu vas spoiler ton avis.
Mais on ne spoile pas trop, mais bon, il y a quand même de la nuance.
Elle a kiffé,
de nuance.
Mais
voilà.
Après, voilà, je suis une Pacific Rim zouze jusqu'à ma mort.
Donc une Pacific Rim, enfin Pacific Rim, pardon.
Pacific Rim.
Pacific Rim.
Ouais. Je suis une Panic Room.
Ouais, une Panic Room. Manu, de ton côté alors.
Bah moi j'ai pas l'attachement à Godzilla de Fabien par exemple, mais j'étais chaud de la promesse du trailer de Gareth Edwards à l'époque. Bah ça a pas tenu le passage en salle de mon côté parce que autant c'est ce que je te disais par rapport à l'intro, moi je m'en fous un peu du temps de présence. On a plein de films de monstres, enfin Jurassic Park, Jaws. Qui
hein, quoi
pas beaucoup le monstre, mais je trouve qu'en fait, dès le premier, on voit ce qui va aller de mal en pis dans la suite, c'est-à-dire la partie humaine, qui est nulle à chier, je trouve, qui se rattrape qu'avec Monarch, et du coup, bah, comme je le dis, c'est aller de mal en pis, jusqu'à Kong vs Godzilla, qui amène le fun que je n'avais pas du tout dans les films entre quoi. Godzilla 2 a été très dur à voir, par exemple. Mais ouais, au moins celui-là est un peu fun.
Donc c'est un peu fun quand même pour celui-ci. Bon, on va voir de toute manière. Je vais vous laisser la bande-annonce qui va vous montrer un peu la gueule du truc quand même, qui est quand même assez effarant. Et on va plonger tout de suite dans la bande-annonce.
C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer.
Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde. Alors, j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. Godzilla.
On vit des temps dangereux.
Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi.
Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est.
Je pense la même chose.
Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants.
Qui s'incline devant qui?
Kong ne s'incline devant personne.
Godzilla vs Kong, sorti en mars 2021 sur HBO Max et en salle aux États-Unis et en Chine, produit par Legendary Pictures avec un budget de $200 millions et distribué par la Warner Bros. Quatrième film de l'univers partagé du MonsterVerse, un script écrit par l'intelligence américaine, le scénariste de Thor Ragnarok et Black Widow, Eric Pearson, et le scénariste en chef de tout cet univers partagé, Max Borenstein. Ce film incroyable qui rend hommage au plus grand réalisateur du cinéma est réalisé par celui derrière le film Death Note sur Netflix, le remake de Blair Witch et tout un tas de films et courts-métrages d'horreur allant au passable à éclater, Adam Wingard. Godzilla vs Kong, c'est l'histoire de King Kong qui est en cellule et qu'on décide de sortir pour aller taper la tête de Godzilla parce qu'il est en train de mettre le boxon. Puis on se rend compte que finalement, il y a une société tenue par un mec qui veut être au top de la chaîne alimentaire, qui a décidé de créer un méca en Godzilla. Pour démarrer le gros robot, il faut récupérer des matériaux de la Terre creuse d'où vient King Kong. Il envoie sa fille Elsa Gonzalez qui meurt durant la mission mais Balek. Le robot marche, il part en couille et Kong et Godzilla, après cette battue, font finalement la paix pour aller éclater le méca. Au milieu de tout ça, nous avons des commentaires de Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, une petite fille sourde et muette et la gamine de Stranger Things. Voilà, alors Vesper, justement, ce gros spectacle à 200 millions de patates, t'as-t-il accroché.
Incroyable résumé, t'as tout spoilé, hein, Luc. Hein,
je tiens j'ai pas dit, voilà, King Kong se rate le cul ou les trucs comme ça, bien sûr. Donc,
c'est dans les trois premières minutes.
Bien sûr. Donc oui, comme disait, j'avais un peu abandonné l'univers en cours de route, donc j'ai pas vu le fameux Godzilla 2 dont vous parliez un peu tout à l'heure.
J'ai le roi des monstres, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible.
Voilà, donc je redémarre là-dessus, et effectivement, comme ça... Bah en fait, déjà, ça a le mérite de durer moins de 2 heures, ce qui est déjà...
Une politesse.
ce qui est déjà pas mal. Ça évite les temps morts, etc., parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, Manu, enfin, dans ce genre de film, moi, ce que font les humains... Enfin, en tout cas, dans cet univers-là, ce que font les humains, ça ne m'intéresse pas, et ils sont souvent creux, nuls et beaucoup trop premier degré. Donc là, j'ai eu un peu peur quand le film a commencé, parce qu'ils étaient vraiment premier degré. Sur plein de trucs, et après je ne savais plus si c'était ma mémoire qui me jouait des tours ou si c'était dans ce que j'avais pas vu de Godzilla 2. Vous inquiétez pas, j'ai quand même compris l'histoire, hein, mais bon.
Après, il y a des trucs qui sont droppés dans le film en mode...
Ouais. Ok, ouais, voilà.
Je crois que la Terre creuse, on n'en parle pas avant.
Ok, bah c'est ça, c'était ce genre de truc où je me suis dit, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que... Ou je m'en rappelle plus, ou je le découvre là, ou je l'ai pas vu, enfin bon. Mais effectivement, comme ça démarre assez vite, c'est je suis satisfaite.
Ah oui.
En vrai, c'est assez généreux. En fait, je pensais vraiment que j'allais me faire chier, hein, pour être sincère. Et c'est très vite parti dans le débilou généreux, donc qui est vraiment mon petit sweet spot.
Je crois que tu es spécialiste de ça, des moments débiles.
Les moments débiles, j'adore. Ah oui, oui. Là, ça commence quand même soft, parce que la première bagarre, le premier affrontement sur les bateaux, bon, qui défie toutes les lois de la physique, n'est pas débile, mais voilà, il est assez cool. Enfin, il n'est pas trop débile.
Ah oui, bien.
Non, je le trouve pas trop débile.
Par rapport à la suite, après, non, c'est vrai.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il y a vrai, enfin, j'étais pas prête pour tout ce qui allait arriver, en fait. C'était vraiment, en plus, comme j'avais totalement droppé, j'avais pas vu les trailers, rien et tout, j'avais juste vu le trailer du prochain. Et je comprenais pas pourquoi d'un coup Godzilla et Kong, la DA, c'était genre une chambre de streamer. Et en fait, j'ai vu que ça a démarré là, en fait. Enfin,
ouais.
Donc incroyable, enfin voilà, fameuse bataille urbaine avec absolument tous les immeubles sont illuminés d'une couleur différente. C'est superbe, enfin full RGB. Et c'est là où j'ai senti où il y a des petits moments de grâce où ça m'a rappelé Pacific Rim. Bon, évidemment, rien n'a le cœur de Pacific Rim, mais rien ne vaut la scène du bateau. en tant qu'arme de Pacific Rim. Mais quand ça touche des petits trucs débiles comme ça, j'achète à 300% le fait que Kong est en train de mourir, façon que le battement de son cœur ralentisse et qu'il fasse un espèce de défibrillateur géant sur le singe, c'est un de mes top moments du film.
Je me permets de rappeler quand même que, parce que je sais que tu l'as pas encore vu, mais un jour je te le montrerai.
Ouais.
C'est que King Kong 2, l'intrigue de King Kong 2, le plot de base, c'est quand même qu'il greffe un cœur artificiel à Kong. Donc, quelque part, c'est un film de connaisseur, tu vois.
Oh là là, ouais. C'est beau. Bah ouais, bah, je suis obligé de...
Ah bah, tu verras.
De voir. Mais très bien, merci.
Il y a Linda Hamilton dedans et tout, ça va être bien.
Je placerai l'information qu'il ne faut pas défibriller quelqu'un quand son cœur ralentit seulement. C'est quand il est en fibrillation.
Non, non, ça ne marche pas. Et après, sur les singes géants, je sais pas, on n'a pas tout.
Ouais, oui, scientifique.
Oui, on sait pas.
On sait pas, il a peut-être plusieurs cœurs. Enfin,
on n'est pas
J'ai pas assez regardé Docteur Fabien qui va le chercher.
Il est parti chercher sur King Kong 2 parce que
c'est... Bah, bien sûr.
Oh là là, quelle
jaquette, putain, aïe.
On en a parlé dans cette émission.
C'est notre deuxième. Vous êtes en train de me dire que du coup, l'une des meilleures idées du film, au final, ça vient pas de ce film. Donc du coup, je suis un peu déçu, quoi.
Moi, je te dis juste que c'est un film de connaisseurs, quoi. Faut voir les
rires.
Déjà, on est sur ce niveau-là.
Voilà, des stats. Et effectivement, Manu, dans notre conversation, parlait d'une scène incroyable que j'ai pu voir quelques minutes après. Toute l'histoire de la hache, on dirait la hache de Kratos, là, moi, je suis solde. Enfin, on dirait mille haches de Groot, mille haches, mille marteaux de Thor un peu dans les derniers. Superbe. J'aime beaucoup le fait que ça se recharge. Enfin, j'ai aimé tous les trucs débiles. Enfin, vraiment. Et puis évidemment, Mecha Godzilla, je savais pas qu'il était dans le film. Donc moi, quand je l'ai vu, j'ai pris feu, quoi. J'ai pris feu, tout était super. Ça m'a fait supporter tous les gens qui servent à rien. Bon, après, Eiza Gonzalez, je la supporte toujours parce que c'est la femme de ma vie, mais bon, juste elle.
D'accord, ok.
Je le sais pas. Mais ouais, enfin, Millie Bobby Brown, tu sais, enfin, tu te demandes ce qu'elle fout là, mis à part justifier.
Valable sur l'intégralité.
Trop. Hein.
Ouais,
la
ouais,
hype Stranger
Things. Elle introduite dans Godzilla 2, alors que la petite fille sur du
muette.
Non, ok, très bien.
Pas besoin.
Voilà, parce que moi, par exemple, la petite fille sourde-muette, je me suis dit, bon, ok, j'ai raté un truc, mais ok. Non, mais le fait que le singe signe, mais moi, j'étais en train de faire merde. J'étais là, mais le singe
mais
en
ça, c'est signe, tout un. C'est tout un fan de la cinéphilie, ça. C'est mon
mais
ami
oui,
Joe,
c'est incroyable.
C'est Gorille dans la brume. Enfin, tu vois,
c'est Mookie,
mais
c'est
Mookie.
C'est Mookie, c'est Mookie.
Mais non, mais. Dans Rampage, ils font des doigts, tu vois. Moi aussi, je peux te citer des singes. Mais je sais pas, là, je m'attendais pas à le voir là.
Donc, il se remet l'épaule, hein.
Ah oui, il se remet l'épaule.
Il se remet l'épaule.
Ouais. À la Martha Riggs. Hein.
Ouais, un peu, ouais. Non, mais j'ai pensé à ça.
Et en fait,
pour des belles rêves.
Kong, il n'y a aucune transition entre Skull Island que tu as vu du coup et ça. C'est-à-dire que toute la partie monarque qui arrive et qui commence à étudier dessus, ça on le voit même pas dans Godzilla 2, on sait pas qu'ils sont là.
Ah oui, très bien, ok, bon bah...
C'est pas la peine,
Mais non, mais j'aimais tous les trucs débiles, le fait que Godzilla... Enfin, dans le premier affrontement, Godzilla, tu sens qu'il est méchant parce qu'il fronce un peu ses sourcils de Godzilla.
Et oui, il fait un rictus pendant
gentil.
La bagarre à un moment.
Ouais, non, mais c'est ça.
Il y a un close-up où il fait genre...
Ils sont ultra anthropomorphes, ça me perturbe de...
Ah, ça les rend sympathiques.
Ça m'a choqué le close-up sur lui entre deux immeubles. C'est quand même.
Mais je trouvais ça superbe de se dire ah ouais, non, mais voilà, lui, on vient bien faire comprendre quel monstre est censé être un peu gentil et celui qui est un peu méchant. Sur la ouais, Godzilla, notre protecteur, ce n'est plus notre protecteur et tout. Ouais. Tout est superbe.
Mais tu vois, ça, c'est un truc des humains dans le film. C'est-à-dire, Godzilla, il attaque un truc. Ils ont placé depuis un moment que Godzilla est un peu là pour les protéger. Il attaque un truc, il se pose pas la question, il est méchant, quoi. Genre, vous allez pas voir en dessous, voir si jamais il y a pas un truc, on sait jamais.
Ouais. C'est non, pas... non, putain.
Mais c'est un complot, tu vois. Bien huilé. Ah ouais, mais c'est ça aussi.
Et Brian T. Henry, voilà, il est très bien en podcasteur.
Complotiste. Oui, ouais,
après, il me fait rire en règle générale, donc bon, là, le voir là-dedans, j'étais là, bon, bah vas-y. Ouais.
Dernière fois qu'on l'a vu dans l'émission, solde. C'était justement sur Bullet Train, d'ailleurs.
Oh putain, oui c'est vrai.
Grand
film baguette fromage.
Ouais. Baguette fromage.
Ouais, mais baguette fromage, c'est pas mal aussi.
baguette fromage aussi.
Manu, de ton côté, ça rappelle Wasabi, moi, ça me fait plaisir. Vas-y.
Ouais, bah moi, comme je l'ai dit, ça remonte un petit peu le Monsterverse dans mon estime du côté fun par rapport à Godzilla 2, que j'avais trouvé vraiment trop dead serious. Et les personnages de Kyle Chandler et Millie Bobby Brown viennent de là, du coup, Vesper, et c'est du à chier, la partie humaine.
Ah oui, clairement.
Il y a deux, trois trucs sympas parce que, bah, du coup, il y a les autres kaiju et il y a des éléments de décor, genre, je sais plus, c'est Atlantis, enfin, la cité perdue de Godzilla sous la mer, là, qui est un peu stylé, je trouve, mais vraiment nul. Et là, bah, ouais, comme tu disais, des bilous sympas, quoi. Moi, j'ai revu le film pour la troisième fois avec plaisir, rien que pour Godzilla qui charge la hache de Kong avant d'éclater Mechagodzilla. Je crois de mémoire, parce que Mechagodzilla a été gardé pas mal de trailers et qu'on l'avait vu dans les trailers de la fin seulement, mais que ceux qui s'étaient arrêtés tôt savaient pas quoi.
Moi je le savais même pas quoi, mais vraiment pas du tout.
Et je trouve ça un peu fun, marrant qu'il soit allé jusqu'à Mechagodzilla dans le film en fait. Alors après, il y a un truc que j'aime bien avec Godzilla, c'est qu'il a un côté un petit peu félin. Moi, il me rappelle des expressions de mon chat de temps en temps quand il est un peu con. Et ça, depuis le film de Gareth Edwards, je me demande s'ils ne sont pas inspirés de.
Franchement, je me suis toujours dit
de
ça.
Leur chat en fait, trop, ouais. tout connement.
Et ouais,
comme Croque-Mou.
Et juste le combat final. Enfin, moi, je suis toujours perturbé par le combat bateau parce que je le trouve pas hyper bien exécuté. Il y a la grosse droite de Kong qu'on voit dans le trailer, mais à part ça, je le trouve un peu foutoir et ça n'a pas de sens. Enfin, à la fin, ils s'allongent, ils éclatent des immeubles et là, ils sont tous les deux sur un bateau qui tient quoi. Enfin. Mais bon, j'ai vu tous les Fast and Furious, donc ça, c'est pas très grave. Mais le combat final, en fait, c'est juste du pur plaisir, quoi. Et comme tu disais, Vesper, c'est généreux, le fait qu'ils soient allés avec la Terre Creuse et qu'ils exploitent ça à fond, et qu'on ait la découverte du royaume souterrain, un tout petit peu, pour savoir qu'on y reviendra plus tard. À la rigueur, ils ont foiré leur lancement de franchise, et leur franchise dans l'ensemble, mais du coup, le rattrapage fun est assez marrant pour l'instant. J'ai assez hâte de voir le deuxième et... Enfin, moi, la bande-annonce, on les voit courir côte à côte.
Ça, mais ça, c'est le moment qui m'a vendu le film.
Non, mais exactement. Non,
quand
mais
j'ai vu
ça, et le petit con, le petit singe aussi, le petit singe aussi.
Non, moi, mais pour être franche, quand je... Bah, c'est Marvin, je crois, le premier qui avait partagé le trailer en disant « Waouh, ça va être incroyable oui. !» du prochain. Et je le comprenais pas, parce que moi, j'étais vraiment restée sur des trucs prom-dog nuls. Et de mon
mais non, puis là, les couleurs de Godzilla, elles pètent et tout. Enfin, c'est
mais oui, non, mais c'est ça. Donc, encore une fois, déjà, les néons, je comprenais pas. Et là, maintenant que j'ai vu celui-là, j'ai envie de voir l'autre. Là, ça y est, ça m'a donné envie, que sinon, j'y serais pas allé, je pense.
Par contre, la partie ça, humaine ça me bute toujours autant, en tout cas, dans celui-là. Toute l'intrigue, Millie Bobby Brown, j'en peux plus. Le seul truc, à la fin, c'est que le personnage qui, dans beaucoup de films du genre ou séries du genre, aurait été là pour vraiment pirater l'ordinateur à la fin... Là, il renverse juste de l'alcool dessus.
Oui.
En fait,
oui.
C'est pas piraté parce que c'est évidemment en fait, on est c'est assez fun premier degré dans l'histoire. Mais j'aime pas les enfants spéciaux et la gamine sourde-muette qui est là pour être une gamine sourde-muette qui est spéciale avec Kong. Alors regarde, développer quelque chose fait, mais je sais pas. Mais après, Fabien.
Bah, c'est la façon dont elle introduit, c'est toujours drôle parce que c'est vrai qu'elle introduit de façon où Kong s'énerve. Et on envoie la petite pour le calmer au début, quand tu connais...
Fait, jusqu'au jour où il en aura vraiment plein le cul et... Genre,
il la défonce, quoi.
Voilà, quoi. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est bizarre à chaque fois.
C'est terrible.
Ouais.
C'est terrible.
Et autant j'aime beaucoup l'acteur, mais le personnage d'Alexander Skarsgård...
Ah oui,
oh, le
non.
Néant, quoi. Le néant.
Ah oui, c'est un flanc. Hein.
Il a pas de chance, lui.
J'aime l'idée que la petite, elle part toute seule et qu'elle dise, enfin, du coup, à sa, entre guillemets, mère adoptive, qu'elle comprend ce que dit Kong et qu'elle dit « Pourquoi tu me l'as pas dit avant ?» Ah, il m'a dit de pas te le dire.
Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben déjà, je suis muette.
Non, mais...
Pas facile.
Non, mais... Pourquoi? Et j'étais là, mais c'est ça ta justif, genre vraiment...
En fait,
avec
Kong c'est un pointeur, en fait. Il a dit, ne dis pas à tes parents.
La gamine, elle préfère écouter Kong que sa mère. Enfin, déjà,
il y a problème.
Je pense que ça te pose assez bien l'univers, quoi. Donc,
après, comme c'est pas sa vraie mère, elle l'écoute à moitié.
Ouais, mais Kong, je suis pas sûr que j'ai vraiment un lien familial non plus avec. Enfin, j'en sais rien, hein. Bon.
Non mais ouais, et puis comme je le disais, il n'y avait pas de transition. Alors il y a peut-être, je sais pas, il y a une série animée Kong, et du coup elle est introduite dedans ou pas, enfin...
Ah mais c'est possible, je sais pas, j'ai pas regardé.
Je pense qu'ils s'en foutent royalement.
Et
oui, peut-être aussi.
Et l'absence de transition fait que le forcing sur encore un personnage comme ça qui sort de nulle part, c'est lourd quoi. Arrêtez avec les humains en fait, il y en a vraiment beaucoup trop d'humains dans ce univers. Pour un univers qui en plus est censé s'être fait éclater... Godzilla 2, l'état du monde.
Le BTP dans cet univers est très 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 à la pointe.
Il faut qu'il soit efficace de toute façon. Enfin,
ouais,
sinon, ça
ouais,
tient pas. Ouais. Non, clairement.
Parce que si c'était le BTP qu'on a nous actuellement, putain, c'est oui. Ouais, ça serait quelque chose. On va continuer avec justement notre spécialiste Fabien. Alors Fabien, ce film, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors c'est très compliqué parce que déjà de base le concept de King Kong contre Godzilla, ça a jamais été pris au sérieux. Même dans le film japonais de 1962 qui est volontairement une comédie. Sur la société de consommation japonaise et sur les salarymen. Donc déjà, de base, même les Japonais n'ont jamais pris le concept au sérieux puisque Godzilla et Kong se battent en mode catch dans le film de 62. Donc forcément, en termes de représentation, il pouvait y avoir qu'un upgrade. Bon, moi, clairement, le Gareth Edwards, je l'adore. Mais vraiment, j'adore ce film très imparfait qui fait 2 heures et pas 2 heures et demie. Voilà.
c'est la version longue que vous n'avez jamais vue, c'est normal. Excusez-moi, je suis dans le petit papier.
Kong Skull Island, j'aime beaucoup le côté survival, un petit peu énervé, avec plein de créatures, et Kong, je trouvais ça très très efficace. Le Godzilla 2, sur le papier, il y avait tout pour me plaire, parce qu'il y avait toutes les créatures sous licence Toho, donc King Ghidorah, Rodan, Mothra et tout ça. Mais en fait, le film, il y a trop de trucs, ça se prend trop au sérieux, et ça bafoue beaucoup de fondamentaux de la saga d'origine, notamment le destructeur d'oxygène qui est un truc super important et qui ont balancé ça, on va dire, de manière très négligée, je trouve. Et en fin de compte, là où ils ont un peu mal négocié leur virage à l'époque, c'est que ils ont enclenché la production de Godzilla vs Kong juste après Godzilla 2. Mais vu que Godzilla 2 s'est planté aux États-Unis, ils ont dû faire une rectification sur Godzilla versus Kong. C'est pour ça que le film, il est comme il est. En fait, il fallait éliminer un maximum de références à Godzilla 2. Et les références qui restent, c'est quelques scènes justement avec Millie Bobby Brown qui est là pour la forme, mais qu'on peut pas couper, sinon le truc tient plus. Et en fait, le personnage...
Il y avait un message d'ailleurs écologique avec un éco-terroriste du coup, au méchant du film dans Godzilla 2.
Voilà, c'est ça.
Totalement là.
Et en fait, le Godzilla, dans ce film-là, il est méchant. Mais pourquoi est-ce qu'il est méchant alors qu'il est censé être le roi des monstres et le protecteur de la Terre à la fin du film suivant? Bah, simplement parce que j'avais lu une interview d'un assistant qui disait que le personnage d'Eiza Gonzalez avait récupéré la machine qu'il y avait à la fin du Godzilla 2, c'est-à-dire le Orca, c'est la machine qui contrôle les kaijus. Donc c'est pour ça que Godzilla est méchant, et en fait il est contrôlé par la société qui est gérée par Damien Bichir, donc la société Apex. C'est Apex. Wow. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a été elle aussi cutée au montage. Jessica Henwick était dans le casting aussi, elle a complètement disparu du film. Légèreté,
ouais.
Voilà, mais justement, ils ont tiré profit de tout ça pour faire un film de moins de 2 heures. Ce type de film-là, ça devrait être interdit de faire plus de 2 heures. Il n'y a aucune raison que ça fasse plus de 2 heures. Donc du coup, ils ont fait un truc ultra rythmé, ultra bourrin, mais qui assume. Mais alors, il faut savoir un truc, c'est que toutes les histoires de cités souterraines, de continents sous-marins, continents engloutis, c'est déjà là dans les films japonais des années 60. Donc il y a plein d'intrigues comme ça à base de genre des films comme Atragon, Godzilla versus Megalon, des trucs comme ça. Donc c'est déjà dans les films japonais. Le côté très anthropomorphe des créatures, ça correspond au Godzilla des années 60-70, où Godzilla, il glisse sur sa queue, enfin il danse et tout. Donc on sait qu'on ne peut plus l'amener à ces extrémités-là aujourd'hui. Mais c'est clairement un film de l'ère Showa, mais à 200 millions de dollars. Son gros avantage à ce film, contrairement à Godzilla 2, c'est que les scènes de combat sont vraiment lisibles. C'est-à-dire que le superviseur des VFX, c'est John Desjardins, qui est le superviseur des VFX des films de Zack Snyder. Et en fait, là, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vachement lisible parce qu'il y a des caméras embarquées sur les points. Les points de montage sont bien réussis. Le premier combat sur les bateaux... Alléluia, il est 2 jours, donc on comprend parfaitement ce qui se passe. Même les scènes où Godzilla, il est enchaîné à un bateau qui coule sous l'eau, c'est vachement lisible. Et même la scène d'Hong Kong de fin, on dirait un plateau de... Vous vous souvenez de ce jeu Casse-Muraille ?
Ouais.
Le jeu avec des briques fluo, là. C'est une partie de Casse-Muraille, mais avec des kaijus qui se mettent dessus. Et en fait, je trouve ça du pur fun et très très réussi, parce que c'est bien monté, c'est bien réalisé. Et ça delivers, je trouve, voilà, ça delivers vraiment, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma, celui-là, parce que je pense que on emmène un gamin de 8 ans voir le film, c'est le film parfait pour aimer les deux persos, dès le début, mais vraiment, moi je l'aime bien le film, vraiment, moi il me divertit, comme proposition de Godzilla. Bon, moi, c'est sûr que depuis Shin Godzilla, tout ce qui est venu après, c'est du bonus. Voilà, c'est le truc ultime. Donc maintenant, prends le bonus, qu'il soit bien ou pas. Et celui-là, c'est un bonus très sympa. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir le suivant pour la simple et bonne raison que le film sera déjà écrit avec peu d'humains, voire même quasiment pas d'humains, et avec beaucoup de monstres pendant moins de 2 heures, en fait. Et du coup, je pense qu'il sera encore meilleur, mais parce qu'il sera directement pensé comme il faut, en fait. Alors que là, ils ont dû rattraper le truc, retoucher le montage pour un petit peu sauver les meubles et limite retcon pas mal de choses, en fait. Alors, il y avait une théorie comme quoi, alors il faudrait que je vérifie, apparemment, la hache, elle peut s'illuminer parce qu'en fait, c'est une écaille de Godzilla qui est sur le... laquelle il frappe. Voilà.
Mais ce sera bien sûr peut-être expliqué dans le prochain film.
d'un des Godzilla, puisque dans cet univers-là, Godzilla n'est pas le seul de son espèce, historiquement parlant, en fait.
Oui, bah ceux que ses ancêtres
ont. Moi, je l'aime bien, le film. Moi, je l'ai pas revu depuis l'époque. Bon, par contre, gros bémol sur le design du Mecha Godzilla, qui est pour moi le pire Mecha Godzilla en termes de design. C'est-à-dire que même celui de Steven Spielberg de Ready Player One, tu voyais 2 minutes et il me faisait plus kiffer, quoi.
Bah, c'était un vrai Mecha Godzilla, quoi.
Oui.
Bah, celui-là, il est trop fin, il manque de poids.
Il
et
a
tout
des
ça.
Réserves par magiques contre... de missiles aussi.
Ouais, voilà. Alors, tout ce qui est réserve magique d'armement, de kaiju qui nage ou qui flotte, alors qu'il y a, je sais pas, 2000 mètres d'eau sous deux, le fait qu'ils peuvent marcher sur des bateaux et que Kong peut tenir peut tenir allongé sur un bateau. Ça, c'était déjà dans les films japonais, donc j'accepte. Ça,
c'est oui, pas puis grave. Quelque part, on s'en fout, c'est le spectacle, quoi.
Ouais,
c'est
voilà, là, c'est voilà. Et puis, dans les films japonais, dans les années 60, il y avait plein de vaisseaux, plein de trucs, de lasers. Enfin, pour moi, ça, c'est pas...
Mais déjà, tu disais, pas... dans les années 60, c'est vrai qu'il y avait Godzilla qui glisse sur sa queue et tout. Donc, il y avait déjà, ouais, quand même, quelque part, un truc de gogol. Hein, mais...
À un moment donné, il volait, il volait en se projetant lui-même avec son rayon, quoi, si tu veux. À un moment donné...
Ah, putain.
En vrai, c'est...
Allons-y, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si vous choisissez la frange rigolote de Godzilla, ben, bah, go, hein. Et les gens s'offusquent qu'il a une crête rose dans le prochain film. Ben, bah, il y a des Godzilla japonais où il est vert avec une crête rose. Hein, ça existe. Hein. Pourquoi le film a une esthétique fluo? En fait, Wingard a dit, je veux faire un Godzilla, un film de kaiju avec une esthétique synthwave. Et volontaire.
Oui, bah voilà, donc là, je suis en mode streamer, j'avais raison.
Magnifique idée.
Non, non, mais c'est vraiment ça.
Splendide.
C'est vraiment ça.
Wingard, il a plein de bonnes idées, vraiment.
C'est... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, un vrai cinéaste, hein, avec un sens du visuel très, 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 très marqué, on va dire.
Bah, la preuve, ça marche voilà. Bien par rapport à Godzilla, quoi.
Oui,
par rapport
oui,
à ce rayon,
ouais.
Et quand il s'allume, tu...
De toute façon, le mec qui s'est dit, je vais... En plus, bon, c'est pas pour rien que ça se passe à Hong Kong, parce qu'en plus, Legendary, c'est une société qui est tenue
maintenant,
par...
Maintenant, c'est une société chinoise, donc, ouais, donc voilà.
Du coup, c'était logique quasiment d'aller là-bas, mais ils ont fait depuis de Hong Kong une sorte de pinball géant, et force est de constater que...
Oui, parce que c'était plein, Pacific Rim, c'était Legendary aussi, il me semble, non?
Oui, ouais, mais il n'y avait pas encore eu le rachat, c'était pas pareil.
Ah ouais, ouais, c'était pas pareil.
C'était avant le rachat par Wanda.
Mm. Ok.
Mais Pacific Rim Rising, si, par contre.
Oui, par contre, Pacific... bah, on voit la différence post-rachat, du coup. C'est
ouais.
Voilà.
T'es dur, hein.
Ouais, c'était raide.
Mais... C'est vraiment dur.
Il n'y a jamais eu de Pacific Rim Rising, ça part.
Non, ouais, ça n'a jamais existé.
On n'est pas obligé, ouais.
Moi, j'ai plus de la peine pour John Boyega qu'autre chose. Hein.
Mm-hmm. Ah ouais, la carrière de John Boyega n'a jamais existé.
Ouais, mais au bout d'un moment, quand c'est à chaque film, bon, ça me dure que bon.
Il ouais, y a Attack on the Block hein, après, mais faut être sympa.
C'est
quoi,
vrai, t'as raison. Il y a Attack on
the Block, c'était super. Ouais.
J'en profite juste pour dire que finalement, dans le prochain Godzilla X Kong, il y aura juste Rebecca Hall, Kaylee Huttle, donc la jeune fille, et l'acteur de Bullet Train, comment ça, Brian Terry Henry, c'est ça?
Ouais,
ah oui,
c'est ça.
Il voilà, y aura juste ces trois-là et Dan Stevens. Eden Stevens.
Ah oui, il y a Dan
Stevens.
Stevens,
mon roi. Très bien.
Ouais, Danton Abbey, Cross Kong, Cross Godzilla, ça va être incroyable.
Parce que Dan Stevens avait fait déjà un film avec Adam Wingard qui s'appelait The Guest, qui était pour le
coup pas mal.
Ça, c'était
coup,
bien.
C'est son point d'orgue hein, de carrière, je pense.
Oui, bien sûr. Ouais.
Avec potentiellement son futur remake de Volteface, on verra.
Donc là, on va avoir Dan Stevens en mode beau gosse avec une chemise hawaïenne. Et je pense que ça va être pas mal.
C'est de la Day One. Day One.
Clairement.
La séance de 9h des Halles, là. Non, il y avait plus de lits, j'y vais plus. Mais voilà.
Vendredi soir, je vous ferai un Dan Stevens report.
Ah, bien sûr. Bah, merci beaucoup, Fabien. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Allez, Marvin, pour finir, là, Kong versus Godzilla ou Godzilla versus Kong. Je ne sais plus le l'ordre. C'est dur.
Moi, j'observe le Monsterverse surtout, en fait, dans sa globalité. Ça me fait rire parce que c'est un truc que tu peux mettre en parallèle avec le DC Extended Universe, par exemple. Mmh. Dans le sens où c'est littéralement la même dynamique qui s'opère. C'est-à-dire qu'on démarre avec un film que moi aussi, hein, comme Fabien, j'adore le Godzilla de Gareth Edwards. Voilà, je trouve extrêmement pertinent, extrêmement réussi. Mais surtout, il avait cette volonté de créer un nouvel univers director driven, quoi. Voilà. En prenant un mec un peu. En prenant plus ou moins un auteur, quoi. Hein. Voilà. Et ce
qui avait réalisé Monster, c'est comme ça que c'était fait.
Voilà.
Ou comme quelle saga où il y a un réalisateur par film
De quoi tu parles? Ah, comme Alien, tu veux dire?
Oh, voilà, qui a cassé tes bouquins, là, on a compris.
Ah,
là,
oui.
Vas-y.
Ah, oui, ouais,
si, passif agressif.
Il fait le VRP mieux que moi, de toute façon, ça a toujours été le cas. Mais du coup, ouais, ça commence comme étant un truc. En fait, ce qui donne un Godzilla qui a beaucoup de personnalité, je trouve, qui ressemble vraiment à son auteur, au point de filmer ça à hauteur humaine, au point de faire du hors-champ avec des créatures monstrueuses et de faire quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans les films de kaiju. Voilà, pour moi, il a vraiment ce mérite-là de faire des choses différentes. Malheureusement, je pense que la réception critique, aussi bien que public, a forcé un petit peu le Monsterverse à se rebrander gentiment, et ce qui les a amenés à aller chercher surtout des cinéastes qui sont plutôt franchise compatibles, hein, pour faire des suites qui sont des purs films de studio, quoi. Je veux dire, clairement, bon, alors Godzilla, King of Monsters, ouais, c'est chaud.
Ah oui, c'est chaud.
Kong Skull Island, je le trouve sympathique comme des fouloirs rigolos.
Ça.
Voilà, ça marche. Non, mais voilà. Et du coup, c'est assez marrant, le Monsterverse, qui, un peu contre son gré, contre son intention première, est devenu de l'alternative à la production japonaise du Kaiju Ega, quoi. C'est-à-dire que, comme Fabien disait tout à l'heure, ce qui se met en place depuis Shin Godzilla, on va dire, et Godzilla Minus One, qui pour le coup sont des films extrêmement chargés en symbolisme, qui pour le coup sont totalement assouvis au point de vue humain, quoi, et ben, extrêmement sérieux et premier degré, et ben le Monsterverse. Et Godzilla est méchant, et bah, du coup, le Monsterverse est devenu l'alternative turbo-débile de ce truc-là, quoi. Donc on a vraiment deux phases de ça. Le Monsterverse est devenu plus ou moins contre son gré, et c'est pas plus mal, en fait. Je trouve que finalement, du coup, on peut l'apprécier de manière, on va dire, un poil coupable quand même, mais ça va. Tu vois, Godzilla vs. Kong, je trouve qu'il y a des choses qui sont réussies à partir du moment où on laisse tomber, toute la vision... on va dire symbolique et extrêmement sérieuse de ce que représente la créature de Godzilla. C'est plus du tout le cas, c'est pas grave. Par contre, ouais, effectivement, le film est méga généreux. Le film est assez lisible. Enfin, en tout cas, je le trouve pas moche, tu vois. Je veux dire, pour un film de studio, encore une fois, drivé par des réalisateurs qui n'ont pas vraiment de marqueur esthétique. Enfin, je veux dire, Adam Wingard, ouais, tu l'as dit tout à l'heure, The Guest, c'est sympa, le reste, c'est chaud. C'était quoi ? C'est Michael Dougherty pour Godzilla King of Monsters, donc lui aussi qui a une carrière cataclysmique, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je veux dire, on met des types qui savent à peu près tenir une caméra, et puis on voit à peu près ce qui se passe avec deux kaijus qui se tapent dessus. Ça fonctionne à peu près, moi je trouve que la scène des bateaux est rigolote, la scène de Hong Kong est pas mal, et puis comme on disait, Wingard, il a beaucoup de bonnes idées, c'est-à-dire d'aborder Kong, comme il le dit en interview, comme son John McClane.
Voilà, ouais, mais c'est ça.
Exactement ce qu'il a dit, parce que pour lui, Kong, c'est l'outsider. C'est-à-dire qu'on sait depuis le début que de toute façon, il n'est pas de taille à lutter contre Godzilla, il le sera jamais. Donc c'est Kong l'outsider, tu vois, qui va essayer de s'en sortir comme il peut, au point où il revendique d'avoir cité le plan de Die Hard, où il saute les bras en l'air comme ça du porte-avions. Et ça marche plutôt pas trop mal, même si le dénouement était extrêmement attendu. Bon, on nous a sorti un espèce de vilain ultime du sac, et puis voilà, c'est parti, on fait la paix, on va se taper ensemble. Bon, allez, pourquoi pas, quoi. Disons qu'on aura peut-être le champ libre pour enfin la prochaine fois faire un truc qui démarre à peu près bien. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec Mélissa et Manu. Hein. Je pense vraiment que l'aspect humain du Godzilla de Gareth Edwards, c'est ce qui faisait sa force. Et on se retrouve à devoir, justement, un peu dans l'urgence, se débarrasser de tout cet aspect humain à partir de Godzilla King of Monsters, avec des personnages fonctions qui sont là. Qu'on caste pour un film, qui ne revienne pas d'un film à l'autre. Enfin, c'est un bordel pas possible avec Millie Bobby Brown, Kyle Chandler qui est là 5 minutes parce qu'il fallait le replacer là. Ces personnages-là n'ont aucune utilité, quoi, parce qu'à la rigueur, ça se comprenait dans le Gareth Edwards parce que c'était leur histoire. On parlait pas vraiment des monstres, en fait, on parlait que d'eux. Et c'était filmé à leur hauteur. Les enjeux, c'était les humains, c'était pas les monstres, en fait. Godzilla, il est en hors-champ pendant les trois quarts du film, donc voilà. Mais et du coup, bon, maintenant, on a décidé de remettre le focus sur des grosses bagarres parce que c'est manifestement ce que Legendary a compris, c'est ce que le public veut voir. Du coup, donc voilà, oui, ça marche pas trop mal. Voilà, je m'attendais à une énorme bouse, hein, quand c'est sorti. Juste écueil récurrent du film de gros monstres. Il y a quand même des problèmes d'échelle.
Ah oui,
ça me fait beaucoup.
Ouais.
Je me rappelle l'année dernière, j'ai vu The Meg 2, c'était pareil. Tu sais, genre, t'as un plan où t'as un monstre gigantesque, le plan d'après, il est plus petit. Enfin, c'est compliqué. Moi, je trouve toujours ça manque un peu de sérieux quand même. Quoi. Quand tu traites ce genre de figure là,
moi, je trouve que ça manque de rapport d'échelle, justement.
Bah oui, c'est ça. Ouais.
Même au-delà de ça, c'est
oui, puis, gigantesque. Ça rend gigantesque, quoi.
Oui, bah voilà. C'est pour ça que le Godzilla de Gareth Edwards était bien, du coup, parce que le gigantisme, quand tu filmes à hauteur humaine, tu te rends compte des choses qui sont grosses ou pas. Ce qui n'est pas du tout le cas.
Skull Island arrivait bien à le faire aussi, le gigantisme aussi, un petit peu.
Ouais, pendant un plan ou deux, mais après, ouais. Tu sais, c'est pareil. Skull Island, il y avait beaucoup de problèmes d'échelle. C'est toujours compliqué dans ces films là. Et je finirai en disant que au lancement d'HBO Max, Godzilla vs. Kong a mis une branlée au Snyder Cut. En termes de. Et que ça, c'est plutôt.
Même
cool.
Alors, attends, voilà. je vais finir là-dessus, parce que même en salle, il a été amputé de pas mal de sorties sur pas mal de pays, mais il aura quand même réussi à tirer 470 millions de dollars de recettes. Hein. C'est quand même assez ouf avec un marché chinois, quoi. Surtout,
alors, il est sorti sur HBO Max au moment où.
Au même moment.
Cette petite fenêtre qu'on a déjà oubliée où ils sortaient leurs films.
Mais c'est là où ils ont compris quelque part que ce genre de film, effectivement, c'est très. Enfin, c'est un film de salle. En fait, c'est un film de salle, c'est un film que les exploitants veulent, parce que c'est un film pour les exploitants qui veulent vendre leur truc 30 balles, là, leur ticket 4DX avec le popcorn et tout. C'est le genre de film que les exploitants de salle veulent voir, en fait.
Ils font des doubles programmes avec les deux films là, à partir de vendredi, là.
Ouais, voilà. Bien sûr. Ah, mais ouais. C'est vrai que, effectivement, après, on va probablement en reparler, et on est tous pareils, on va tous citer Pacific Rim au moment de citer une référence absolue. ce genre de choses-là. Et c'est rigolo quand même de les remettre en perspective, parce que Pacific Rim, bah, ouais, qu'est-ce qui fait qu'il marche ? C'est le rapport d'échelle, en fait. Je veux dire, il est quasiment inégalable sur ce plan-là. On se rend compte à tout moment que tout est gigantesque. Ouais, mais bon. On se rend vraiment compte à tout moment que tout est gigantesque. Et c'est un truc que ces films-là savent pas faire, par contre. Ouais, vraiment. Je veux dire, ça m'impressionne pas, quoi. Jamais. J'ai pas l'impression qu'ils soient monstrueux. C'est pas le but, non, mais je sais bien. Mais c'est vraiment un truc qui, je pense, ils savent pas faire. C'est compliqué. Et c'est dommage parce que, par contre, tu vois, je trouve que le design, notamment du Godzilla, depuis Gareth Edwards, je le trouve très beau, en fait. Je le trouve super réussi.
Moi, il me fait toujours marrer avec son gros cul. Ça me fait rire, moi, à chaque fois.
Ah, et ça, c'est tu incroyable. Vois, Magnus Swan, c'est encore pire, tu vois.
Ouais, ah, Magnus Swan, il a des bonnes cuisses.
J'ai pas eu cette chance.
Mais il arrive à faire peur quand même, tu vois.
Oui, bien sûr.
Pas de souci. Et
Godzilla, le secret, c'est les cuisses.
Bah oui, c'est ça, c'est les bonnes cuisses.
Les cuisses, c'est le ventre et le bas du ventre.
Et le bas du ventre.
Ouais, c'est ça. On aime bien les bonnes cuisses.
De toute façon, c'est clair que personne ne travaille de manière aussi organique que Del Toro avec les superviseurs VFX. De toute façon, sur Pacific Rim, il avait John Knoll, qui est le top du top du top en matière de chef d'effets spéciaux. T'as le mec, c'est notamment le créateur de Photoshop. C'est un des meilleurs, peut-être le patron des boss VFX, quoi. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, il y a le gigantisme et la texture.
Oui, c'est ça aussi. Ouais.
C'est qu'il y a du gigantisme, il y a de l'échelle, mais il y a de la texture, quoi. Et puis, mais tout en restant fun, quoi. Mais puis surtout, c'était aussi un film qui nous demandait de nous attacher à ces personnages humains. Ils étaient archétypaux dans Pacific Rim, mais ça fonctionnait parce que le cœur y était, quoi. Et surtout, tout était organisé de manière symbiotique. Après, on aime ou on n'aime pas les archétypes, hein, mais de toute façon, ils ont compris, là je rejoins Marvin, sur le fait que petit à petit, on va aller sur un décrochage complet des intrigues humaines, et on va se retrouver avec des films d'animation quasiment en 3D, où la part humain, elle va être complètement
anecdotique,
réduite,
quoi. Mmh.
De toute façon, tu peux pas lutter avec ce qui se met en place au Japon depuis Shin Godzilla. En termes de... Enfin, je veux dire, le Kaiju Ega, j'imagine que Fabien va pas me contredire que oui, c'est quand même des films qui sont extrêmement centrés sur l'humain, finalement. Et je veux dire, ce qui se passe au Japon avec Shin Godzilla et Minus One, c'est pas la peine d'aller les chercher sur ce terrain-là.
Ah ouais, non,
ça marchera pas.
Tu as raison, mais ce sont des films qui sont axés aussi sur l'humain parce qu'ils ont pas du tout les mêmes budgets que les films hollywoodiens. Et vu que maintenant, ils doivent mettre du CGI et des VFX de partout et que c'est pas les mêmes budgets, ils ont pas forcément les moyens de faire des grosses séquences avec les monstres. C'est le cas de Shin Godzilla.
Ils arrivent pourtant très bien.
Ils arrivent très bien, mais vu que ce sont... Ils arrivent très bien surtout sur Minus One en faisant travailler confortablement les équipes, mais ils y arrivent aussi en gagnant un maximum de temps sur l'intrigue humaine. Hein. Des fois, même sur Minus One, tu sens qu'il n'y a pas de scène coupée, hein. Ils étirent le truc de manière très stratégique pour que Godzilla arrive à des points narratifs. Je veux dire, Godzilla, à chaque fois, il arrive au milieu du film. Après, il va faire une sieste de 45 minutes avant de revenir à la fin, comme par hasard. Quoi. C'est pas grave. Mais on sent que le fait de ne plus utiliser d'acteurs costumés et de miniatures, ça réduit considérablement ce que tu peux faire avec ce personnage-là, parce que les VFX numériques coûtent cher, tout simplement.
Ouais, tu peux pas faire ton petit Godzilla qui glisse sur sa queue, quoi.
Quand t'as 12 millions de dollars, comme les Japonais, tu peux pas faire une séquence de combat qui dure une demi-heure, alors que les Américains, avec un budget de 200 millions, ils disent go.
Ouais, ils s'en foutent.
Mais encore une fois, tout dépend de ce que tu cherches dans ce type de film. Si tu veux le grand film sérieux, métaphorique, symbolique, parabole antinucléaire, là c'est au Japon, et effectivement
le spectacle,
ce qu'on voyait dans les films des années 60-70, c'est là maintenant aux États-Unis. Et puis c'est des évolutions naturelles de licence, d'abord de commencer sur du dark, ensuite on s'habitue à ces personnages là on va sur du léger. Ça veut pas forcément... Peut-être qu'on va avoir un Godzilla 3 qui va être un petit peu plus sombre, ou alors Wingard va faire un troisième Godzilla X Kong. Ce qu'il a dit, s'il y a moyen, il peut faire un troisième et boucler la trilogie. Tout est possible. Plutôt, c'est de savoir ta ligne directrice, en fait.
Ouais, mais après, c'est bien justement cette ligne-là qu'ils ont pris. C'est qu'ils se sont dit, finalement, effectivement, est-ce qu'on s'inspirerait pas aussi de nos concurrents, genre chez Universal avec Fast and Furious aussi, quelque part, quoi. C'est-à-dire vraiment d'éviter de se faire prendre. Enfin, autant notre truc, il est con, ça n'a aucun sens, mais autant y aller dans ce sens-là, quoi.
Tu peux faire, entre guillemets, tu peux faire dans le superficiel qualitatif, voilà.
Oui, voilà, oui. C'est quelque chose de simple, pas simpliste, quoi.
Voilà, mais en fait, pour la TO, c'est tout bénef, parce qu'en fait, là, c'est produit par Legendary, distribué par Warner, à peu près produit par Warner, mais avec la TO derrière, qui valide les designs, son chèque, mais en termes de licensing, c'est tout bénef. Hein. Entre les jouets, les produits dérivés, tout ce que tu veux, là, ils se gavent, hein, et sans dépenser le moindre sou. Hein.
Clairement. Il manque plus que le jeu vidéo, on y était, quoi.
Je suis assez contente que les deux coexistent et qu'il n'y ait pas vraiment de... Enfin, tu peux aimer les deux. Tu vois,
tu peux clairement aimer les deux, ouais.
Il n'y a pas d'idée, parce que j'avais un peu peur de ça, voilà, moi qui, du coup, voyais maintenant ça de loin, côté américain, et que, du coup, j'ai vu Shin Godzilla enfin l'année dernière, au cours d'une superbe séance où était Fabien. J'avais peur qu'il y ait cette espèce de dichotomie, enfin, que les gens se disent un peu, ouais, non, mais là, voilà, il y a les bons films, c'est les films japonais, et les films de merde, c'est les films américains. Hein.
Ouais, après,
arrête, tu fais ta cinéphile.
Non, mais et puis, il y a clairement tellement de films Godzilla japonais.
Mais en parlant des récents.
Qui vont dans tous les sens avec des acteurs costumés qu'au final.
Je parle vraiment des récents, mais en fait, je trouve ça cool que justement ce soit juste complémentaire et que tu peux trouver ton bonheur dans les deux, en fait, qu'il n'y a pas. Oui. T'as pas besoin de dire « Ah oui, il y en a un qui a une vision, enfin, un point de vue, ce qu'on veut, meilleur que l'autre. » je trouve ça cool de se dire « Bah ouais, en fait, justement, on vit dans une époque où, si t'aimes bien ce genre de film, bah en fait, tu peux, au cinéma, tu peux en voir quasiment un par an, un tous les deux ans, ultra facilement, et sauf Manu Swan quand il sort deux jours, mais enfin, façon de parler, quoi. Mais tu peux y avoir accès beaucoup plus facilement, et tu peux kiffer, et tout le monde est content, quoi. Donc c'est assez cool.
C'est intéressant, parce qu'à peu de mois d'intervalle, on a la surgravité, le sursérieux de Minus One, et d'un côté, on va avoir le délire de kaiju absolu avec le Godzilla X Kong, mais comme tu le disais, les deux. On n'a pas à choisir, en fait.
Oui, mais c'est ça, t'es pas obligé de monter une proposition contre
une autre, en fait. Ouais.
Là-dessus, donc c'est vraiment bien. Et de la part de quelqu'un qui, pour le coup, Shin Godzilla, je m'attendais à me prendre une claque et je me suis pris une claque x10 dans la gueule. ça m'a mind-blown, vraiment, c'était vraiment dingue. Mais voilà, et ça m'a pas empêché de me dire quand même une patate de forain et un défibrillateur,
un saut d'un porte-avions,
qu'est-ce que tu veux d'autre
de toute façon.
Alors, on va clôturer le débat Godzilla versus Kong en vous posant cette question: ce film mérite-t-il la shitlist, Fabien?
Non,
c'est un non. Vesper?
Non.
Marvin?
Non, non plus, non.
Il a abandonné, il a dit oui.
Non.
Moi, j'ai du fun, mais je trouve que ça reste pas un bon film quand même. Donc, j'aurais quand même tendance à le mettre dans la shitlist, quoi.
Manu,
ah,
le mettrait dans la
shitlist. Il y a Rogue One dans la shitlist à un moment, c'est.
Mais tu aussi dans la shitlist.
Après, c'est mieux que Rogue One. Donc, voilà.
Les Gareth Edwards, vous les mettez dans la shitlist, en fait.
Non.
Alors.
Attends,
Que Rogue One.
On n'a pas parlé.
Restez bien.
Le film ne mérite pas la shitlist. Il est sauvé de la shitlist. Il ne rejoindra pas la team Dune, la team Rogue One, tous ces films incroyables. Non. Et lui, il reste impassible face à la shitlist. Merci Fabien. Est-ce qu'il reste encore des livres? La réédition que tu avais faite de ton livre Envahisseur, est-ce qu'il est toujours dispo ou pas?
Celle qui est derrière toi?
Exactement.
Et montre-le!
C'est beau gosse.
Ah ouais, bah attendez.
Montre-le à la caméra, Luc.
Attendez. Parce que là, je vais peut-être me péter le dos. Attendez. Hop.
Te blesse pas, surtout.
Oui.
Ce serait con. Mais là, je suis en train de niquer mon décor. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause.
Oh,
voilà. Et donc, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Donc, il y a encore disponible.
Il en reste parce que je l'ai pas encore. Il faut que je le prenne. Hein.
Très bel ouvrage. Très, très bel ouvrage de notre ami.
J'ai bien réussi à choper le livre de Marvin dans une bibliothèque.
Elle a réussi à choper un Hong Kong Action dans une bibliothèque, ouais, alors qu'il était en rupture. Donc, comme quoi.
C'est-à-dire que quelqu'un l'a vendu parce que c'était nul.
Une librairie spéciale cinéma.
Non, il était neuf.
Ah, il était neuf. Ok.
Il existe encore dans des rayons. C'est comme.
Oui, après, une fois que
les
ça.
Les bouquins épuisés, tu vas dans un Leclerc.
Oui, c'est vrai.
Facile parce que personne ne va voir.
C'est vrai.
Pareil, il faut faire pareil pour guetter l'ouvrage de Fabien.
Donc il est encore disponible et c'est un très bel ouvrage justement sur l'histoire des kaijus. Merci encore à Manu, merci Vesper et n'oubliez pas le live le 12 avril au Club de l'Étoile à Paris à partir de 19h30 où on va diffuser Les Ailes de l'Enfer en VF 35 mm. Donc soyez là, le lien pour la billetterie est dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon, donc le forfait à 3€ Shitlist Prime, forfait à 5€ Shitlist Plus, forfait 10€ Hall of Fame, et on remercie nos nouveaux donateurs cette semaine, qui est Clara pour sa souscription au Shitlist Plus, et on remercie bien sûr le Hall of Fame, Semnatch, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Grief Keeper, et on n'oublie pas, effectivement, il y a Marie-Clémentine qui fait de la promo dans le chat, mais demain, on sort le nouveau podcast du début de la fin, et on parle de sorcellerie avec Charmed. Voilà, de sorcellerie un peu gênante d'ailleurs. Ça, c'est...
Vous faites charme, ça, ouais.
On a fait charme, on l'a enregistré.
Il y en a, ils l'ont regardé en entier quand même. Tu vois.
Ah oui, oui. Il y en a, c'est spécialiste.
Préféré, Marvin parle bien. Hein.
Ah, bah, alors, ouais. Tu seras. C'est... Qui est spécialiste? Je crois que c'est Karim. C'est Karim et Ludo, ouais. C'était Karim et Ludo. Donc, notre Karim est un spécialiste de charme, faut pas l'oublier.
Spécialiste du sorcière, hein, effectivement.
Ouais.
Je parlerai de charme avec Karim.
Voilà. Bah, on ne sait pas, mais Karim est spécialiste de plein de choses.
Mais Karim, il était spécialiste désigné ou il était déjà avant, tu vois?
Il était déjà avant.
Ah ouais, d'accord, vous l'avez pas.
Il
a fait ça de son plein gré, quoi.
Je crois que c'est lui qui avait proposé de faire la série, hein. Je sais pas Ludo, je crois que c'est lui qui avait dit de faire la série en plus.
C'était franchement.
Quel engagement, Karim.
Quand même. Des fois, il me surprend toujours.
Pour le 12 avril, vous avez de la chance parce qu'on a failli diffuser un film nul et au final, on a Les Ailes de l'Enfer, donc on est content.
Alors, le film nul, c'était quoi, Manu, dis-moi?
Je le dirai pas. Les gens demanderont en live.
C'est notre cuisine interne.
Ah, putain. Il y a eu des conflits pour le film. Hein. N'oubliez pas que ça a été comme...
On voulait diffuser le maltringue, voilà.
Voilà. C'est pas fait, malheureusement. Et la semaine prochaine, on a encore un film incroyable, j'ai envie de vous dire, c'est Ghostbusters Legacy. SOS Fantôme l'héritage, ça va être fou. Shitlistpodcast@gmail.com pour les SAV, rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord également. Nous enregistrons en live sur Twitch, donc vous pouvez avoir la VOD sur YouTube et vous pouvez nous suivre directement en live pour avoir la notification. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, n'hésitez pas à nous soutenir là-dessus. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao.
Salut.